France Culture.
Tur, question du soir. Quentin l'a fait.
La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État a 120 ans aujourd'hui, exactement, texte fondateur du principe de la philosophie même de la laïcité française, un principe de liberté, texte qui grave d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire et la possibilité donnée à chacun de le manifester, texte qui affirme également la neutralité de l'État qui ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, aucun texte de loi n'a certainement été autant discuté, commenté, brandi que celui-ci. Alors 120 ans plus tard, comment le lire, le comprendre, l'articuler aux autres textes législatifs? Peut-il demeurer intangible et en miroir? Quelle devrait être la juste place des religions dans notre société? Deux invités pour en discuter, pour en débattre ce soir. Aline Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale d'Unité Laïque, conservatrice générale honoraire des bibliothèques et vous êtes l'autrice du livre intitulé « Enseigner le fait religieux à l'école, une erreur politique ». Point d'interrogation, un ouvrage qui a paru en 2021 aux éditions Minerve. Face à vous, Samuel Gibowski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de l'association Coexister et spécialiste de la laïcité. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et question simple pour commencer, alors que le terme même de laïcité n'apparaît pas dans le texte de 1905, il se fait rare même dans nombre de textes législatifs qui concernent effectivement la laïcité. Comment définissez-vous, Aline Girard, pour commencer, ce terme-là, celui de laïcité?
Eh bien, la laïcité est un concept qui n'est pas véritablement défini. En fait, quand... on s'adresse à moi ou aux membres de notre association, les gens sont un petit peu perdus parce qu'ils ne trouvent pas de définition satisfaisante de la laïcité.
Que leur répondez-vous alors ?
Alors je leur réponds que c'est une définition qui demande un petit peu de construction. C'est tout d'abord un principe constitutionnel, mais aussi un dispositif juridique qui organise la société française en séparant les religions et le politique. Ça, c'est la loi de 1905. Elle est fondée aussi sur le devoir de l'État d'assurer la liberté de conscience, d'assurer l'égalité entre tous les citoyens et d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant la loi, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur conviction. C'est un principe qui induit la neutralité absolue de l'État, la neutralité des agents publics, et qui s'abstient de reconnaître, de salarier et de subventionner les cultes, dont la liberté, les citoyens ont bien évidemment également la liberté de culte. Donc il y a une obligation de résultat avec assurer la liberté de conscience et une obligation de moyens avec garantir la liberté de culte.
Samuel Gibowski, est-ce que vous faites vôtre cette définition ?
Oui, en grande partie. Moi, je le prends sous cet angle-là en disant que c'est un principe d'organisation de l'État, notamment sur le choix du mot « principe » qui va s'opposer, on va le voir dans les débats des 120 ans qui ont suivi la loi de 1905, à la notion de valeur. C'est un principe d'organisation de l'État qui a pour objectif de promouvoir, défendre la liberté de conscience, de conviction, de religion et l'égalité de tous et toutes devant la loi. Et pour arriver à ces deux objectifs, elle propose... deux branches très concrètes, ce principe, la neutralité de l'État et des agents, ça a aussi été une construction progressive, et la séparation des églises et de l'État.
Mais alors je vois déjà une différence entre vous, vous dites Aline Girard, c'est un principe d'organisation de la société, lorsque vous dites Samuel Gibowski, c'est un principe d'organisation de l'État. Alors Aline Girard, est-ce que c'est la société qui est d'abord concernée par cette loi de 1905 ?
Absolument, puisque l'article 1er de la loi de 1905 dit... que la République assure la liberté de conscience. Donc on est bien dans un domaine qui concerne les individus, la société, et non pas l'organisation de l'État par rapport aux religions, notamment. Donc c'est plus qu'un dispositif, qu'un principe juridique, c'est vraiment un principe général d'organisation de la société.
Samuel Gibowski.
Oui, alors c'est effectivement là qu'on va reconnaître un certain nombre de différences qui, pour moi, trouvent leur source dans le débat de 1905 entre Émile Combes et Aristide Briand. On a le rapporteur du projet de loi, donc Aristide Briand, qui, avec Ferdinand Buisson, propose un texte de concorde dont l'objectif est de réconcilier la France, les deux Frances, on disait à l'époque, autour d'une capacité à se projeter dans une nouvelle harmonie après un siècle de tensions et de violences. Et cette concorde, elle vise justement à distinguer aussi des espaces. C'est-à-dire que si la liberté de conscience vaut pour toutes et tous et que l'État assure, c'est un droit créance, c'est ce qu'évoquait Madame Girard à l'instant en disant que l'État a une obligation de résultat, donc ça c'est sur assurer la liberté de conscience. Pour cela, la neutralité qui est proposée, c'est celui de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le patrimoine philosophique ou politique de la laïcité une neutralisation des individus, et les seules personnes qui sont appelées à être neutres dans notre pays pour rendre possible l'application de ce principe, c'est les fonctionnaires. Et cette neutralité, d'ailleurs, elle a mis du temps à être véritablement incarné, parce que le temps qu'on décide vraiment que les fonctionnaires devaient appliquer l'article 2 de ne reconnaître et ne subventionne aucun culte, il a fallu attendre 1986 pour qu'on l'écrive formellement dans la fonction publique. Et je rappelle, comme ça on prend peut-être d'avance sur la suite, que la loi de 2004 sur les signes visibles à l'école est importante aussi à souligner, parce que si elle s'inscrit dans le patrimoine laïque, elle n'exige pas de la part ni des élèves ni des usagers de la neutralité. Elle exige de la discrétion. Et c'est très important de le préciser parce que ça nous rappelle que cette neutralité est réservée aux fonctionnaires et aux agents qui rendent possible en fait cette harmonie et ce vivre ensemble d'une pluralité qui fait la France aujourd'hui et qui la faisait déjà en 1905. Mais que les élèves, en étant invités à cette discrétion, sont invités à rentrer dans un sanctuaire qu'est l'école et qu'à vivre dans la période de l'apprentissage une discrétion le temps de l'apprentissage. Mais ils ne sont pas soumis à cette règle de neutralité très stricte qui s'impose aux agents.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un film intitulé « La séparation ». On y entend l'abbé Grérot, député du Finistère, incarné par Claude Riche. Il s'oppose à cette proposition de loi dont on fête aujourd'hui les 120 ans.
La séance est ouverte. La parole est à monsieur l'abbé Grérot.
Pour nous, messieurs, l'idéal des rapports entre l'Église et l'État ne saurait être la séparation. Pour nous, l'idéal, c'est l'union de la société civile et de la société religieuse.
C'est la domination du pape.
L'union pour la paix des consciences, pour la tranquillité publique. Si vous ne voulez pas accepter la motion que je propose, je suis persuadé que vous le regretterez un jour. Je prévois de grands maux, de grands malheurs pour l'Église et pour la France. C'est la guerre que vous nous déclarez. C'est la guerre que vous nous apportez. Et nous la ferons !
Je voudrais qu'on plonge dans ce débat et notamment que l'on inverse peut-être les termes même de ce débat en vous demandant à vous, Aline Girard, pour commencer, quelle devrait être, à l'inverse, la place des religions dans la société française. Je sais que c'est l'objet d'une controverse entre vous deux. Pour commencer, peut-être éclairez-nous sur votre opinion sur ce point.
La place des religions, c'est celle que leur attribue la loi de 1905. Je voudrais revenir sur un des propos que vous avez tenus au tout début de cette émission. Vous avez dit que la laïcité, c'est la liberté de croire et de ne pas croire. Mmh. Et je trouve que cette approche est assez réductrice. La laïcité, c'est la liberté de conscience, article 1 de cette loi de 1905. Or, la liberté de conscience, c'est la liberté d'avoir tout type de conviction. Des convictions philosophiques, des convictions politiques, des convictions religieuses. Or, je sais que de plus en plus, que ce soit les hommes politiques ou dans les médias, on réduit la laïcité à la liberté de croire et de ne pas croire, c'est-à-dire à un rapport avec la religion dans ces termes-là. La loi les débats qui ont précédé le vote de la loi de 1905, qui ont duré, je crois, plus de 40 semaines, et qui ont été très bien restitués dans le film dont vous avez diffusé un extrait.
La séparation.
La séparation. Ont été des débats de très haut niveau, avec des orateurs absolument exceptionnels. Et contrairement à ce que on veut nous faire croire, parfois, la loi de 1905 n'est pas le résultat d'un compromis entre les églises et l'État. C'est un acte de souveraineté absolue de la nation, mais qui s'est pragmatiquement accompagné d'un certain réalisme politique. Donc, je crois que la loi de 1905 a donné aux religions dans la société française une place déterminée.
Laquelle, alors, justement ?
Qui a... laquelle ? D'une certaine manière, Victor Hugo l'a dit, l'État chez lui, l'Église chez elle, l'État chez lui, Or, on constate depuis un certain nombre d'années une porosité de plus en plus marquée entre la sphère des religions et la sphère du politique, la sphère du politique. Ainsi, quand on met en débat un certain nombre de sujets de société, il est presque automatique aujourd'hui d'inviter des représentants des cultes à donner leur avis sur les questions en débat. Ce qui n'était absolument pas le cas au cours des décennies passées. Par exemple, la commission Stasi, qui...
Initiée par Jacques Chirac en 2003.
En 2003, qui a donné lieu au vote de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école, est une commission qui... Une commission qui ne comportait pas de représentants des cultes, ce qui aujourd'hui est presque incompréhensible.
C'est-à-dire, vous avez en tête des exemples de commissions mises en place par le gouvernement, par des gouvernements ou des représentants des cultes qui auraient été intégrés ?
Des consultations.
Mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, non. C'est pas la même chose, bien sûr. Mais je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais. D'une certaine manière, on demande systématiquement l'avis des cultes sur un certain nombre de problèmes. Si, par exemple, la question de la fin de vie, par exemple. L'État, aujourd'hui, ne se considère plus comme capable, avec les représentants de la nation, de prendre des décisions sur ce type de sujet.
Alors prenons cet exemple de la fin de vie, par exemple, Samuel Gibowski. Est-ce que vous trouvez légitime de demander à des représentants des cultes, des religions, leur avis sur ce sujet de la fin de vie ? Est-ce qu'au fond, les religions aussi ont droit d'exprimer, en tout cas leurs représentants, des points de vue sur des sujets de politique publique ? Et on reviendra ensuite à l'association que vous avez créée, puisqu'elle est en lien direct avec cela.
Oui, alors je fais juste une petite marche arrière sur la question du compromis, parce que je pense effectivement que ce n'était pas une loi de compromis, et la réaction de Pie X, qui était le pape à l'époque, avec la violence des termes qui ont été utilisés sur la très pernicieuse erreur et sur la façon dont la République était décrite, montre qu'on avait en face un adversaire d'une virulence extrême qui avait un pouvoir temporel, politique et culturel beaucoup plus élevé que n'importe quelle religion aujourd'hui. C'est important de se rappeler ça, parce que j'ai l'impression que dans ce débat laïque qui fut le nôtre en tant que républicain pour nous affranchir de la tutelle de l'Église, on a gardé un peu ce traumatisme d'une mère Église, comme l'appelle lui-même Aristide Briand quand il reconnaît cette rupture de dire maintenant on a coupé les liens avec celle qui se prétendait être la mère du peuple. On a gardé cette attitude de virulence qui pour moi a pu sonner un petit peu décalée avec une religion, l'islam, on en parlera plus tard dans l'émission, qui ne dispose pas de la puissance pontificale d'un pape comme Pie X qui a excommunié toutes les personnes baptisées qui avaient voté le texte de 1905. Donc effectivement c'est une loi qui s'inscrit dans un rapport de force. Sur votre question de la consultation pour la fin de vie, pour moi depuis 1905 les religions sont traitées comme des associations comme les autres. Alors, elles ont de fait un statut juridique qui leur est propre, qui peut peut-être brouiller les cartes. Statut juridique qui a encore une fois été modifié en 2021 avec la dernière loi qui s'inscrit dans ce patrimoine de la laïcité. Mais du point de vue politique, pour moi, elles doivent être traitées à égalité. C'est-à-dire que si on consulte des corps intermédiaires, selon l'expression habituelle, ou des organisations sur différents sujets, on peut en consulter un certain nombre et le législateur est libre de consulter, s'il le souhaite, les religions. Par contre, attention, pour moi, ce qui fait que la France n'est pas l'Italie ou l'Espagne, c'est que personne n'a chasse gardée et qu'il n'y a aucun sujet sur lequel on aurait un devoir de réserve ou un devoir de consultation comme l'Italie a eu tendance à le faire par exemple sur le mariage pour tous, et je pense qu'il n'y a aucun caractère d'obligation.
Aline Girard, au fond le représentant d'un culte n'est pas le représentant d'une association comme une autre, on devrait pouvoir les écarter de ces consultations, dites-vous ?
Je vais revenir un peu en arrière parce que avant la loi de 1905, il y a une longue tradition de laïcisation de la société qui trouve son début dans la Révolution française et en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais me permettre de rappeler deux articles. L'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. On a là les prémices de la séparation entre l'Église et de l'État. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corps intermédiaire qui soit légitime entre le peuple et la nation. Ceux qui veulent se soumettre à une organisation aux opinions de laquelle ils adhèrent peuvent le faire, mais en aucun cas les préconisations de cette organisation, de cette association, ne peuvent concerner l'ensemble des citoyens.
Mais donc ça signifie que l'État ne devrait consulter aucun spécialiste, aucune association, aucune organisation syndicale, patronale, professionnelle ?
Si, si, bien sûr, mais ces corps intermédiaires n'ont pas d'autorité. N'ont pas d'autorité. Et le deuxième article est intéressant aussi, je vais le citer. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses.
L'article 10, du coup ?
L'article 10, j'ai dit l'article 2.
Non, vous avez dit que c'était le deuxième article.
Ah bon ?
Mais qu'est-ce que vous en citez deux, de fait.
Oui,
donc
oui,
le 3, vous citez le 3 et le 10.
Pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi, on a là les termes aussi de la loi de 1905 avec le concept de liberté de conscience. Donc en fait, la longue histoire de la laïcité imprègne la société française et la France depuis... plus de 230 ans. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu une première séparation des Églises et de l'État en 1795, en le décret du 3 Ventôse 1795. Donc, nous fêtons non seulement les 120 ans de la loi de 1905, mais les 230 ans de la première séparation des Églises et de l'État.
Double anniversaire, donc, pour le prix d'un jeudi. Samuel Gibowski, vous êtes le fondateur de l'association Coexister. Je me suis rendu cet après-midi sur le site de cette association et voilà ce qui est écrit dans les motifs, la raison d'être de l'association. Conviction à religieuse, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme et bien d'autres. La France est l'un des pays les plus divers en termes de convictions religieuses, spirituelles ou philosophiques. Pourtant, ce thème est l'un des plus tabous, sujet à polémique, et il est peut-être difficile de savoir comment l'aborder. Fin de citation. Quelle est la raison d'être de Coexister ? Quelle est sa philosophie et son lien justement avec les religions ?
Je pense que cette pluralité religieuse qui fait la France aujourd'hui, elle est l'une des conséquences d'une France laïque. La France laïque a rendu possible et a été un repère pour toute une série de communautés qui, dans des pays d'Europe, ont été brimées pour leur simple appartenance à une minorité parce qu'elles étaient réduites à cette identité-là. Et cette réalité, elle est très ancienne, elle précède 1905. Elle avait donné le fameux adage « heureux comme un juif en France » parce que les juifs, puisqu'on parle beaucoup de 89, qui de fait, 89, la Révolution a été le début de ce patrimoine laïque dont on parle aujourd'hui, dans la période de la Révolution, les Français, la France, ont été le premier pays à accorder la citoyenneté aux juifs, donc cette émancipation les considérait comme égaux indépendamment de leur appartenance religieuse. Et cette tradition, elle s'inscrit encore aujourd'hui. Quand on regarde statistiquement en Europe, et je vais répondre sur la pertinence de Coexister de ce point de vue-là, de manière statistique, si on prend juste sur les sondages, on pose aux questions est-ce que vous adhérez à une religion ou pas, on a des statistiques aujourd'hui qui nous permettent de dire le panorama religieux de la France, sans que ce soit des données chiffrées, INSEE, précises. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques en France, mais on peut connaître le panorama religieux du pays. On voit qu'on a la première minorité juive, musulmane, et même, j'oserais dire, minorité chrétienne d'Europe, puisque maintenant les chrétiens sont une minorité dans notre pays. Et donc, ça fait une singularité d'un pays qui est très multireligieux, multiconvictionnel, puisqu'évidemment, la majorité des Français sont athées ou agnostiques. Cette réalité-là, elle peut être mal vécue. Et on le voit de différentes manières. Les préjugés, le racisme, les discriminations, l'exclusion, le repli sur soi, le rejet de l'ordre public, de l'ordre commun.
Mal vécu par les croyants, vous
voulez dire. Les deux. Par le pays, par la société. C'est-à-dire, on peut prendre les deux exemples. Elle peut être mal vécue parce que le simple fait d'être dans une situation de pluralité peut créer de la tension et de la violence et polariser la société sur des positions plus dures. Je pense que la société a prouvé le contraire et si elle a été à ce point résiliente après des années très sombres qu'ont été les années du terrorisme islamique en France, c'est parce que justement elle sait vivre et pratiquer, notamment par un chiffre record de mariages mixtes dans notre pays que aucun autre pays d'Europe ne peut égaler, elle sait prendre le pli d'une diversité qui est vécue dans l'unité. Elle ne choisit pas. La France a montré qu'elle a toujours promu à la fois la pluralité de ses appartenances et l'unité autour du projet républicain. Coexister, ce qu'il propose, c'est qu'un parcours pédagogique et éducatif d'un an invite des jeunes de toutes les convictions, athées ou croyants, à découvrir qu'est-ce qui, à travers leurs différences exprimées, créent du commun entre eux. Et donc, il est possible, par un parcours éducatif, de l'éducation populaire classique, de jeunes de 18 à 30 ans, de découvrir ce commun dans la diversité, et en ne niant aucun des deux, c'est-à-dire en vivant cette histoire propre à la France d'avoir été unis et divers en même temps.
Je vais vous faire réagir, Aline Girard, mais encore une question, Samuel Gibowski. Qu'est-ce que cela produit, ces rencontres ? Qu'est-ce que cela permet? Qu'est-ce que cela ouvre aussi comme champ des possibles?
Alors, je pense qu'il y a deux échelles de réponse, parce qu'on a fait notre première grande mesure d'impact pour le 15e anniversaire, Coexister aura 17 ans en janvier bien prochain, et donc sera plus vieille que l'âge à laquelle je l'avais fondée, puisque j'avais 16 ans quand j'ai commencé l'aventure Coexister. À notre 15e anniversaire, on a fait une mesure d'impact en rappelant certains des vieux coexistantes et coexistants qui avaient été au début de l'association, et donc on a aussi vu les effets à long terme. Les effets à court terme, c'est clairement une déconstruction des préjugés les plus évidents, quels qu'ils soient, sur la laïcité, parce qu'elle est récupérée, manipulée, on le sait, et ça crée des crispations dans notre pays, sur les religions, mais aussi une connaissance du principe de laïcité, c'est-à-dire une connaissance rigoureuse de son histoire juridique, son histoire politique et philosophique, et de pouvoir se saisir de cette question-là, et d'en parler dans les débats de famille. À long terme, ce qu'elle produit, c'est une capacité en rentrer en relation avec des personnes qui sont différentes. Et si on parle de communautarisme aujourd'hui dans notre pays, il y a clairement un premier coupable du communautarisme qui est suffisamment nommé pour ne pas nous y attarder, qui sont les religions elles-mêmes, qui essayent de garder leurs ouailles dans la bergerie, si je puis dire. Mais il y a un deuxième coupable du communautarisme qui est, de l'extérieur de ces communautés-là, l'anathème qui est mis sur certaines communautés en particulier, notamment la discrimination à l'égard des personnes musulmanes en France, qui est statistiquement mesurée, qui est très impressionnante, et qui force, finalement, certaines personnes à rester dans des espaces qu'elles considèrent plus sûrs. Ce que Coexister propose, c'est de casser cette logique communautaire et de rentrer en relation dans des espaces qui ne sont que trop rares.
Aline Girard, vous avez vertement critiqué cette démarche, notamment dans votre livre intitulé « Enseigner le fait religieux à l'école, une erreur politique, point d'interrogation ». Que lui reprochez-vous ?
Alors le point d'interrogation est le fait de mon éditeur. S'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait pas eu de point d'interrogation.
Alors disons « Enseigner le fait religieux à l'école, une erreur politique, point ». Mais dites-nous ce qui vous embête dans la démarche de Samuel Gibowski, et notamment dans cette association qu'il a cofondée, Coexister.
Je vais me permettre de remonter au début des années 2000 avec le rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Donc Régis Debray a recommandé que le fait religieux soit enseigné comme un fait de civilisation, ce qu'il était déjà antérieurement à la recommandation de Régis Debray, puisque on abordait les religions dans le programme sur l'Antiquité, les religions antiques, sur le programme des guerres de religion, le programme de la conquête de l'islam, etc. Mais Régis Debray a mis l'accent sur la nécessité de parler du fait religieux à l'école. Les professeurs se sont sentis extrêmement démunis. Professeurs laïcs se sont sentis extrêmement démunis face à cette demande où on leur demandait d'aborder autrement la question de la religion dans les programmes d'histoire, par exemple. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, si j'ose dire, et puis se sont présentés comme des aides qui s'offraient à eux, un certain nombre d'associations. Je vais citer
donc Coexister, puisque vous voulez vous montrer Samuel
Gibowski. Mais ce n'est pas la seule association. Il y a une autre association qui a à peu près la même vocation, qui s'appelle Enquête. Des associations qui interviennent dans les lycées, pour ce qui est d'Enquête, dans les écoles primaires aussi, qui mettent beaucoup l'accent sur les religions et la coexistence des religions, le dialogue interreligieux, et finalement la question de la laïcité est une question périphérique. Je prendrai pour exemple un outil pédagogique l'association Enquête propose aux enseignants du primaire, qui est l'arbre à défis. C'est un certain nombre de fiches, de cartes, plus de 70 je crois, qui servent donc à travailler avec les élèves du primaire sur la question des religions et de la laïcité. Sauf que dans ces 70 fiches, il y en a 3 qui parlent de laïcité et le reste parle des grandes religions monothéistes. Donc comment voulez-vous que des enfants primaires, du niveau primaire, mais également du collège, puissent faire la part des choses entre ce poids des religions et la faiblesse affichée de la laïcité?
Je vais faire réagir Samuel Gibowski. Une question au préalable, Aline Girard. Est-ce que, selon vous, le discours et le dialogue interreligieux a le droit de citer, malgré cela, dans l'enceinte scolaire, notamment?
Les élèves viennent à l'école pour apprendre engranger des connaissances, former leur esprit critique. Ils entrent à l'école en essayant, autant que faire se peut, d'abandonner tous ceux avec quoi ils sont constitués pour créer une sorte de parenthèse laïque, de respiration laïque, comme l'a nommé la philosophe Catherine Kinsler. Le fait religieux ne peut pas être totalement absent. De toute façon, comme je le disais précédemment, il est mentionné dans les programmes d'histoire, il est mentionné dans les programmes de philo avec Spinoza, Descartes, etc., dans les programmes de lettres également. Mais ce que je conteste, c'est, outre l'invitation d'un certain nombre d'associations interreligieuses, le recours, beaucoup plus récemment, à des représentants religieux, eux-mêmes, pour parler avec les élèves, accompagnés par leurs professeurs, voire par des représentants de l'administration ou du rectorat, de faits religieux et de laïcité. Donc on invite aujourd'hui des représentants des cultes dans un certain nombre d'établissements scolaires pour parler religion, laïcité, comme si les enseignants n'étaient plus en capacité de faire face seuls à un dialogue avec les élèves.
Samuel Jibovski, je vais vous laisser répondre en deux temps sur le premier point, le point selon lequel la laïcité serait, dans le dialogue interreligieux à l'école, une question fondamentalement périphérique.
Oui, alors d'abord, pour moi, ce que nous proposons avec Coexister, ce n'est pas le dialogue interreligieux, qui décrit quelque chose de très précis, qui est un dialogue entre personnes appartenant à différentes religions, voire parfois, plus précisément encore, des représentants des religions elles-mêmes. Et quand Coexister est apparu en tant qu'association, on avait publié très tôt un rapport sur déconfessionnaliser l'interreligieux en le rendant interconvictionnel, c'est-à-dire en partant de la réalité d'une population. Et la réalité de la population française est interconvictionnelle. Qu'est-ce qui se produit quand on dit interconvictionnel au lieu que religieux ? On parle des convictions dont on parlait au début. Les convictions qui sont protégées par les droits humains, par 1948, mais aussi par la Convention européenne des droits de l'homme, qui peuvent s'exprimer dans leur pluralité, qui ne sont pas forcément des convictions religieuses, qui peuvent être des convictions philosophiques ou spirituelles.
Et pourtant, c'est ce que Coexister... sur le site de Coexister que j'ai cité tout à l'heure, c'est bien une liste de convictions religieuses, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme et bien d'autres. C'est bien cela le point d'entrée que vous mettez en avant dans la raison d'être de l'association.
Vous venez de le citer, vous avez dit convictions religieuses. Donc c'est des convictions qui sont d'ordre religieux, mais qui peuvent être...
Et la suite est un ensemble de convictions religieuses. Je veux dire que c'est aussi un point d'entrée important
pour
Coexister.
Absolument, mais c'est juste que parler de dialogue interreligieux, ça nous inscrit tout de suite dans quelque chose qui exclut et qui est assez précis dans un dialogue entre les religions. Et les religions, en plus, elles n'existent pas, à moins que ce soit leurs représentants. Et ça a été quelque chose que les cultes nous ont reproché très tôt, c'est-à-dire de proposer une alternative en ayant un espace de coopération et de dialogue interconvictionnel, si je puis me permettre une fois encore, qui montre que des jeunes puissent affirmer des convictions différentes. Et ce que ça permet aussi de parler d'interconvictionnel avec cette porte-là, c'est qu'il y a mille façons d'être juif et musulman, pour reprendre le titre du livre de Rachid Benzine et Delphine Horviller, et qu'il n'y a pas une façon valable de décrire ce que ça veut dire qu'être musulman. Et qu'en parlant en fait de ces convictions religieuses-là, en partant des jeunes concernés par ces convictions, on instaure tout de suite une pluralité. Donc moi je pense que la laïcité se nourrit de cette coopération interconvictionnelle, pas simplement de ce levier-là, elle se nourrit de plein d'autres choses. Et par rapport à ce qu'on évoquait sur l'école, je pense qu'il est fondamental, et c'est d'ailleurs exactement ce que fait Coexister, de former à l'application du principe de laïcité. Notre vidéo à Coexister, qui est 3 minutes tout près sur la laïcité, qui en fait dure 4 minutes 30, est utilisée de manière tellement importante que c'est la vidéo la plus vue aujourd'hui sur YouTube sur le sujet, et c'est le support de départ, qui a même été détourné en enlevant notre logo pour cacher que c'était une association interconvictionnelle, parce qu'il y en a que ça compte vient pas, pour expliquer ce qu'est la laïcité. Donc notre formation d'origine, c'est de dire nous avons un cadre de concorde qui rend la pluralité possible, parce que des jeunes en doutent. Des jeunes se disent, cette pluralité et ce que je suis moi n'a pas sa place dans ce pays. On vient leur dire que non.
Sur le second point, mis en lumière par Aline Girard, est-ce que selon vous, Samuel Jibovski, les représentants des religions, les représentants des cultes ont le droit de citer dans l'enceinte scolaire ?
Je pense qu'il faut être très prudent sur ce point, qu'il y a des situations très exceptionnelles où ça peut être possible dans le cadre de projets scolaires. On a vu des films, on a vu des chorales, on a vu des choses intéressantes qui sont faites dans le pays. Il y a des situations où ça peut s'avérer utile parce qu'il y a des leaders religieux aujourd'hui qui sont influents par rapport à des jeunes qui parfois sont en déroute et donc ils ont une responsabilité pour favoriser la concorde et le vivre ensemble. Mais pour moi, ça doit rester marginal, plutôt en dehors de l'enceinte de l'école. Et c'est pour ça que coexister, d'ailleurs, je connais très bien l'association Enquête, c'est distinguer aussi de cette démarche en ne proposant pas de responsables religieux, jamais, dans aucune de nos propositions, aucune de nos formations, et en n'étant pas centré sur l'enseignement du fait religieux. Il se trouve que par ailleurs, à titre personnel, je suis favorable à un enseignement laïque du fait religieux à l'école. On parle bien des faits religieux, c'est-à-dire ni d'un catéchisme, ni d'une théologie, mais d'une connaissance scientifique sur l'histoire, la philosophie, l'anthropologie des religions, qui est en plus le cursus que j'ai fait à l'école pratique des hautes études, qui est une fac publique, je le rappelle. Et donc, qu'on puisse transmettre ça aux enfants, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, mais ça n'est pas ce que fait l'association Coexister, considérant que ce travail des faits religieux doit être transmis à des scientifiques, en l'occurrence donc à des enseignants, qui seraient formés pour le faire dans le cadre du renforcement de la discipline.
Extrait d'un sondage Ipsos qui est apparu aujourd'hui, je le cite, l'idée selon laquelle il ne faut rien changer à la loi de 1905 est toujours majoritaire dans l'opinion à hauteur de 60%, mais la volonté de la réviser s'élève à 32%, la supprimer 8%, la tendance est nettement plus forte qu'il y a 20 ans, c'était 40% en 2025 contre 29% en 2005. Cette loi de 1905, est-ce qu'il faut qu'elle demeure intangible, Aline Girard, et notamment pour tenir compte éventuellement des transformations de la société française?
Alors, on dit souvent que la loi de 1905 n'est plus adaptée, justement, à une société pluriculturelle avec des caractéristiques qui ne sont plus celles du début du XXe siècle. Mais je vais me permettre de donner plus de détails sur cette enquête IFOP que vous mentionnez, parce que ce serait dommage de s'arrêter aux quelques chiffres que vous avez donnés. Effectivement, elle a paru aujourd'hui, IFOP Fondation Jean Jaurès. Les résultats sont différents de ceux de l'enquête d'il y a 20 ans, mais 55% des personnes qui souhaiteraient modifier la loi de 1905...
Alors moi, c'était une autre étude, hein, pardonnez-moi, c'est un détail,
c'était pas
mais
Ipsos.
C'est l'étude Ipsos. Hein.
Ah d'accord.
Et vous, c'est l'étude IFOP.
Mais bon, IFOP,
allez,
voilà.
Allons-y, sondage contre sondage.
Les chiffres sont les mêmes, hein, c'est-à-dire 60% on ne veut pas changer, 32% modifier, 8% supprimer. Mais 55% des 32% qui veulent la modifier ne veulent pas la modifier dans le sens d'un accommodement à l'anglo-saxonne, mais dans le sens d'un renforcement des règles. Ce qui est intéressant à mentionner, 18% des sondés veulent avant tout réduire l'influence des religions dans la société. Et ça, c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Et je donnerai un dernier chiffre, 40% des personnes interrogées en 2025 estime que la laïcité n'est pas que la neutralité de l'État et des agents publics. La laïcité, c'est bien autre chose. Et pour conclure, en 2005, lors du premier sondage, la gauche apparaissait comme le meilleur avocat de la laïcité. Ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. À peine un quart des Français voient dans la gauche et ses différentes nuances un défenseur de la laïcité. Pour revenir à la question des formations sur la laïcité, nous faisons nous-mêmes, notre association Unité Laïque fait beaucoup de formations. Nous avons formé notamment les cadres civils entrant au ministère des Armées pendant plusieurs mois. Nous intervenons souvent dans les lycées, dans les collèges, et bien évidemment, l'approche que nous retenons n'est pas celle de présenter la laïcité sous l'angle de coexister. C'est vraiment essayer de faire comprendre aux personnes que nous avons devant nous quelle est l'importance de cette loi de 1905 pour la société française qui non seulement est laïque, mais est aussi fortement sécularisée.
Vous faire bondir sur un point, Samuel Gibowski, vous vous êtes engagé à gauche dans une vie parallèle et militante. Lorsqu'Aline Girard reprend ce sondage qui explique que les Français ont de moins en moins confiance dans la gauche pour défendre la laïcité, comment est-ce que vous accueillez cette tendance?
Je pense que aujourd'hui, la méfiance, elle concerne plutôt les dérives de récupération de comment la laïcité a été évoquée, justement, dans la période des années 2015, après le terrorisme, où elle a été mobilisée comme un rempart contre l'islamisme. Et je pense que nous avions besoin d'un rempart contre l'islamisme, qui se situe d'abord du côté de la sécurité, ensuite éventuellement du côté de l'éducation, mais que là, il y a eu un mésusage. La laïcité est bien impuissante par rapport à la violence terroriste, et que, par contre, elle est très utile et féconde pour permettre à cette société de vivre ensemble convenablement, en harmonie, en équité et en justice. Je prends un exemple récent qui m'a marqué et que j'ai salué, c'est quand en 2020, le garde des Sceaux envoie une circulaire interne à tous les procureurs de la République en leur demandant de faire respecter les infractions au principe de laïcité, en rappelant quelles sont ces infractions, au nom de quel texte de loi elles peuvent être sanctionnées et pourquoi. Parmi ces infractions, et j'aimerais qu'un maximum de jeunes le sachent et nous entendent, parce qu'on sent la méfiance qu'ils ont aujourd'hui de plus en plus avec le principe de laïcité, il y en a 5 qui concernent des discriminations fondées sur la religion. Ça veut dire que 5 discriminations aujourd'hui relèvent des infractions au principe de laïcité. Pourquoi ? Parce que si vous discriminez à cause de la religion, vous ne respectez pas l'idée selon laquelle tout le monde dans notre pays est égal devant la loi, peu importe sa religion. Discrimination à l'embauche, discrimination dans la sanction professionnelle, sur le licenciement, sur l'offre d'emploi, sur l'accès aux soins, etc. Et dans cette circulaire, on rappelle une évidence qui pour moi n'est pas assez connue, qui est que la laïcité protège. Elle protège l'ensemble de nos concitoyens, et donc elle protège aussi ces différences qui, du point de vue de l'État, sont des différences aveugles. Parce que notre similitude en tant qu'humain est traitée par l'État de manière à ce que nos différences en tant qu'appartenance puissent être protégées. Et je pense que cette méfiance, elle vient de là. Elle vient du fait que la laïcité, c'est indéniable, ces dernières années dans le débat public et d'autres sondages, IFOP et Ipsos l'avaient montré à plusieurs reprises, a été récupérée. Et je pense qu'elle a été récupérée notamment par les défaits de 1905, il faut parler d'eux. On a parlé d'Émile Combes, bon, je voudrais parler aussi d'Edouard Vaillant, qu'on voit très bien dans ce film, qui voulait que l'État s'engage dans une laïcisation des esprits et de la société. Et ça n'est pas ce qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est que la société serait sécularisée par elle-même, comme quelque chose d'automatique, mais que l'État, lui, ne s'engagerait pas là-dedans, il resterait neutre, et il doit le rester.
Aline Girard, lorsque vous entendez que la laïcité est un principe protecteur, une valeur protectrice, vous êtes d'accord avec cette idée également ?
Absolument. Je suis parfaitement d'accord. La laïcité, je crois qu'on peut le dire, c'est la garante de la concorde civile. C'est la condition de la cohésion sociale aussi dans notre pays. Et c'est un principe protecteur, beaucoup plus large que la liberté, c'est l'égalité aussi, c'est d'une certaine manière la fraternité, puisque tous les hommes sont, on met en avance leur ressemblance avant de mettre en avance leur différence. Donc c'est un principe de protection.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus donc célébrer ces 120 ans du texte de 1905. Double anniversaire, on l'a appris dans cette émission. 230 ans et 120 ans. Aline Girard, vous êtes secrétaire générale d'Unité Laïque, conservatrice honoraire des bibliothèques, autrice du livre intitulé « Enseigner le fait religieux à l'école, une erreur politique », un ouvrage qui a paru aux éditions Minerve. Samuel Jibowski, fondateur de l'association Coexister, spécialiste de la laïcité. Merci à vous deux d'être venus dans Question du soir. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancey, Juliette Mouéluc. À suivre après le journal, une autre question. Les conditions de travail sont-elles au cœur de la frustration sociale ?